Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices, c'est Hervé Cheuseville, toujours très content de vous retrouver, comme chaque semaine, pour Panorama Info. Cruel avril, c'était le titre d'un livre d'Olivier Todd au sujet de la fin de la guerre du Vietnam. Le mois d'avril, en Europe, évoque pour nous le printemps et le renouveau de la nature. Ce mois devrait donc être porteur d'espoir et de joie. Hélas, hélas, pour ma part, le mois d'avril évoque surtout des tragédies et des génocides. Le dernier jour de ce mois d'avril, en 1945, Hitler mettait un terme à son existence, une vie consacrée à la haine raciale et au désir d'imposer la domination d'une race soi-disant supérieure. Son délire avait abouti aux lois raciales, aux camps de concentration, à l'extermination des handicapés, aux annexions de toujours davantage de territoires, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de la Pologne, à la conquête de l'Europe et au génocide des Juifs d'Europe, avec à la fois la Shoah par balles dans les pays baltes, en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, et la Shoah dans les camps d'extermination, véritable usine de mise à mort de masse, principalement en Pologne occupée. Les Tziganes furent eux aussi victimes de ce programme génocidaire, méthodiquement planifié et organisé dans tous les pays soumis à la botte nazie. Le 30 avril 1945, la mort du monstre marquait donc la fin de cette abomination et de ce gigantesque conflit qui avait mis la quasi-totalité de l'Europe ainsi qu'une partie de l'Afrique du Nord à feu et à sang. La Shoah demeure le plus grand génocide du XXe siècle. Le 17 avril 1975, cette fois-ci, des hommes vêtus de pyjamas noirs faisaient leur entrée dans Phnom Penh, la capitale du Cambodge, mettant fin à une guerre de 5 années qui avait opposé le régime militaire du maréchal Lon Nol, soutenu à bout de bras par les États-Unis, à l'insurrection communiste qui avait progressivement pris le contrôle des campagnes avant de finir par assiéger la capitale. Le petit peuple de Phnom Penh fit bon accueil à ces hommes en noir, au visage émacié et au regard dur et fixe. Car leur entrée dans la ville signifiait la fin des bombardements et le retour tant attendu de la paix. Il ne fallut que quelques heures aux Phnom Penhois pour déchanter. Ce que le prince Sihanouk avait jadis surnommé par dérision les Khmers rouges forcèrent en effet toute la population de Phnom Penh à évacuer la ville immédiatement sans qu'aucun préparatif n'ait été fait pour organiser un tant soit peu un tel exode de masse. Hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes, patients sortis des hôpitaux, tous durent quitter la ville dans un chaos indescriptible. La plupart durent partir à pied. Cet exode, voulu par des dirigeants communistes encore anonymes, permit de commencer un tri inhumain au sein de la population citadine. Les plus faibles mouraient, tandis que ceux qui étaient identifiés comme étant des militaires de l'armée de l'ancien gouvernement étaient éliminés, ainsi que tous ceux que le système considérait comme irrécupérables pour la construction de la nouvelle société qui devait voir le jour. Cet exode stupéfiant marqua le début d'une période qui dura moins de 4 ans. 4 années d'un régime où l'argent avait été aboli et où la société tout entière fut collectivisée. Même la vie de famille finit par être abolie, avec l'obligation de prendre de maigres repas dans des cantines collectives. La population cambodgienne, divisée entre anciens peuples, c'est-à-dire les paysans, et nouveaux peuples, c'est-à-dire la population citadine, déportée et forcée à devenir elle aussi paysanne, fut soumise au travail forcé dans les rizières ou dans des chantiers pharaoniques qui n'avaient pas été correctement planifiés. C'est ainsi que l'on construisit des barrages et des canaux en dépit du bon sens, sans ingénieurs, sans techniciens et quasiment sans équipement, en dehors de pelles et de pioches. Ce travail forcé durait de l'aube à la tombée de la nuit dans des conditions inhumaines et il était suivi le soir d'interminables sessions d'endoctrinement consistant en la répétition de slogans primaires sans cesse rabâchés et en séances d'autocritique et de dénonciation de saboteurs, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas assez productifs. Tous les jours, on emmenait quelques personnes à l'écart afin de les exécuter à coups de pioche ou par suffocation dans des sacs en plastique. Le pays fut peu à peu constellé de charniers. Les hôpitaux et les médicaments n'existaient plus et les dispensaires tenus par des infirmiers khmers rouges analphabètes étaient des mouroirs. Les écoles non plus n'existaient plus. Les enfants étaient séparés de leurs parents et endoctrinés dès leur plus jeune âge. Pire, on les incitait à dénoncer les propos contre-révolutionnaires des membres de leur propre famille. La malnutrition, les maladies, la délation et une surveillance implacable étaient les principales caractéristiques de ce régime dément qui transforma le Cambodge tout entier en un gigantesque camp de concentration. Dans leur folie meurtrière, les dirigeants mêlèrent un communisme radical à un nationalisme exacerbé, haineux envers tout ce qui n'était pas khmer. C'est ainsi que les communautés d'origine vietnamienne et les minorités religieuses, musulmanes et chrétiennes, furent impitoyablement stigmatisées et massacrées. De religion, il n'était d'ailleurs plus question. Même le bouddhisme majoritaire avait été banni, les innombrables temples fermés, les bonzes défroqués ou tués. Des hordes de soldats khmers rouges furent lancées au-delà de la frontière vietnamienne afin de reconquérir les territoires qui avaient été khmers jadis, tout en y commettant des massacres. Et ce qui devait arriver arriva, le Vietnam, pourtant lui aussi communiste, envoya son armée, bien supérieure en nombre et en équipement, envahir le Cambodge et renverser ce régime fou. Le 7 janvier 1979, l'armée vietnamienne faisait son entrée dans Phnom Penh, la capitale fantôme, vidée de ses habitants. Les Cambodgiens connurent à nouveau l'exode et la guerre. Cette invasion du Cambodge par son ennemi héréditaire, le Vietnam, ne peut en aucun cas être considérée comme une libération. Mais elle eut au moins le mérite de mettre un terme à l'utopie meurtrière des Khmers rouges. Il fallut attendre 10 longues années avant que le voisin finisse par retirer ses troupes d'occupation. De nos jours, le pays est toujours aux mains de la même famille depuis 4 décennies, celle d'un ancien chef militaire khmer rouge rallié au Vietnam. Hun Sen est resté au pouvoir jusqu'à l'an passé avant de transmettre ses fonctions à son fils Hun Manet. Cependant, ce régime corrompu et autocratique est un paradis en comparaison des près de 4 années qu'a duré l'invraisemblable expérience khmer rouge qui est reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fut, un génocide. Ce régime épouvantable sous la férule des Pol Pot, Nguyen Chea, Yeng Sari, Khieu Samphan est responsable de la mort de centaines de milliers de Cambodgiens, morts d'épuisement, de malnutrition, de maladies, mais aussi de massacres de masse. Chaque mois d'avril, en particulier le 17, j'ai donc une pensée émue pour ce pays que je connais bien et pour ces Cambodgiens si aimables, si souriants et si accueillants. Le 30 avril 1975, moins de 2 semaines après Phnom Penh, ce fut au tour de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, d'être, entre guillemets, libérée par des armées communistes, celles du Nord-Vietnam et de la rébellion communiste, connue sous le nom de Viet Cong. L'interminable guerre du Vietnam prenait fin et le pays était réunifié par la force sous la férule du régime pro-soviétique de Hanoï. Ce régime est toujours en place aujourd'hui, même s'il s'est depuis ouvert à l'économie capitaliste. Si l'on ne peut pas le qualifier de génocidaire, il est malgré tout responsable d'une impitoyable répression et de l'enfermement des dizaines de milliers de serviteurs de l'ancien régime sudiste, civils et militaires, et d'opposants réels ou supposés dans des camps de concentration appelés camps de rééducation, d'où nombre d'entre eux ne sont jamais revenus. La dureté du régime a provoqué l'exode maritime de centaines de milliers de Vietnamiens, ceux que l'on surnomma à l'époque les « boat people ». Combien de milliers d'entre eux disparurent corps et biens dans la mer de Chine ? Le régime de Hanoï est également responsable de l'occupation du Cambodge et du Laos, où des régimes vassaux furent imposés, régimes qui étendirent au Cambodge et au Laos les pratiques répressives en cours au Vietnam. À ce jour, un tel régime est toujours en place au Laos, un autre pays qui m'est particulièrement cher. Je ne saurais évoquer le mois d'avril sans parler à nouveau du Rwanda, un autre pays que je connais bien. Si la tragédie que ce malheureux pays a connue débuta le 1er octobre 1990, lorsqu'il fut attaqué par une armée venue d'Ouganda, elle culmina pendant les 100 jours qui suivirent l'attentat contre l'avion présidentiel commis le 6 avril 1994. Pendant ces mois terribles, des centaines de milliers de civils furent chassés et massacrés à Kigali et ensuite dans le reste du pays. Ces 100 jours ont depuis été qualifiés de génocide, même si j'estime qu'il est inexact de les qualifier de génocide des Tutsis. Car si des milices Hutus et des hommes armés enivrés et chanvrés ont bel et bien fait la chasse aux Tutsis, considérés dans leur ensemble comme des suppôts du Front patriotique rwandais dirigé et créé par des militaires Tutsis rentrés d'Ouganda pour renverser le régime en place à dominante Hutu, il est faux de prétendre que seuls des Tutsis ont été massacrés. Les Hutus l'ont été également. Ceux que l'on a qualifiés de Hutus modérés ont été tués de la même manière, en même temps et par les mêmes hommes que ceux qui massacraient les Tutsis. Et des centaines de milliers d'autres Hutus ont été massacrés par les hommes du FPR avant, pendant et après ces terribles 100 jours, au gré de leur avancée à l'intérieur du pays. Des centaines de milliers de Hutus ont en outre été massacrés à partir de 1996 au Zaïre lors de l'invasion de ce pays par cette même armée du FPR. Des Congolais sont aussi morts par millions durant cette invasion et les interminables guerres qui suivirent et qui ne sont toujours pas terminées à l'heure où je parle. En ce mois d'avril, je pense donc à ces millions de victimes, Rwandais, Tutsi, Hutu et toi, mais aussi Congolais. Enfin, le mois d'avril est aussi le mois durant lequel on se souvient du génocide des Arméniens, perpétré entre 1915 et 1916 par le régime dit « Jeune Turc », au pouvoir dans l'Empire ottoman, finissant allié des empires centraux durant la Première Guerre mondiale. Le 24 avril est la date à laquelle ce génocide est commémoré. En France, le 24 avril est reconnu comme, je cite, « journée nationale de commémoration du génocide arménien ». Ce génocide, le premier du XXe siècle, pour son ampleur et son caractère planifié, est donc commémoré comme il se doit dans toute la France. Ici, en Corse, cette commémoration doit avoir lieu à Ajaccio, place Camping, à l'initiative de la municipalité et de l'AMICA, l'association d'amitié Corse-Arménie, que j'ai eu l'honneur de cofonder en 2021 après mon voyage en Arménie et en Artsakh. Ce génocide des Arméniens fit environ 1,5 million de victimes. Durant le dernier quart du XIXe siècle, les Arméniens de l'Empire ottoman prirent conscience de l'inégalité de leurs droits face aux autres citoyens, aux citoyens principalement musulmans. Des groupes révolutionnaires arméniens se formèrent. Ils dénoncèrent les méthodes du sultan, exigèrent l'application des réformes promises et réclamèrent la liberté pour tous, ainsi que l'égalité entre Arméniens et musulmans. Les Arméniens constituaient une importante minorité. En 1867, la population arménienne s'élevait à 2 millions en Turquie d'Asie et 400 000 en Turquie d'Europe, soit un total de 2 400 000. Une première série de massacres eut lieu entre 1894 et 1896 sous le règne du sultan Abdulhamid II, connu en Europe sous le nom de Sultan Rouge ou encore de Grand Seigneur, Seigneur écrit avec un A à la place du E. C'est ce sultan qui ordonna en personne les massacres à la suite du refus des Arméniens de Sassoun de payer la double imposition à laquelle ils étaient soumis entre juillet et septembre 1894. Les Kurdes, assistés par les Hamidés, régiments de cavalerie kurde, venus en renfort, assiégèrent puis massacrèrent du 18 août au 10 septembre 1894 la population arménienne de Sassoun, déclenchant une vague de massacres à travers tout l'Empire ottoman qui dura jusqu'en 1896. La presse européenne se fit largement l'écho de ces massacres qui suscitèrent l'indignation de l'intelligentsia. En France, Jean Jaurès dénonça le massacre des populations arméniennes ainsi que l'indifférence du gouvernement français, qualifié de « silence honteux » par Anatole France dans un discours à la Chambre des députés le 3 novembre 1896. Le bilan de ces massacres est estimé à environ 200 000 morts, 100 000 réfugiés, 50 000 orphelins, 40 000 convertis de force, 2 500 villages dévastés, 568 églises détruites ou transformées en mosquées. Le second prélude au génocide eut lieu en 1909. Les massacres de Cilicy débutèrent le mercredi de Pâques du 14 avril et se prolongèrent jusqu'au 27 avril 1909. Ils commencèrent à Adana, où près de 30 000 miliciens organisés en 5 à 10 groupes pillèrent puis massacrèrent méthodiquement les maisons et commerces du quartier arménien de Chabanié, avant de l'incendier avec le soutien tacite des autorités locales qui libérèrent et armèrent les détenus de droit commun afin que ceux-ci participent au massacre. Ces massacres cessèrent le 17 avril avec l'arrivée de la marine française, puis anglaise, russe, allemande, américaine et italienne. Ils reprirent le 24 avril avec l'arrivée de l'armée ottomane envoyée de Constantinople. Ces troupes ottomanes participèrent au massacre. Organisé par le mouvement des jeunes Turcs arrivés au pouvoir en 1908, ces tueries firent près de 30 000 victimes, dont 20 000 dans le seul vilayet, c'est-à-dire province, d'Adana. Le 1er novembre 1914, l'Empire ottoman entra dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La 3e armée ottomane s'engouffra en Transcaucasie russe. Elle y fut écrasée par l'armée russe en janvier 1915 à Sarikamish. Le ministre de la guerre ottoman, Ismail Enver, accusa les Arméniens de la région d'avoir pactisé avec les Russes, causant ainsi la défaite. Le 18 avril 1915, 60 000 Arméniens furent massacrés dans la région de Van, berceau historique de l'Arménie. La justification avancée pour ces massacres fut qu'il s'agissait d'une réaction face aux désertions d'Arméniens et surtout face aux quelques actes localisés de résistance. Les survivants se replièrent dans la ville de Van et organisèrent leur défense, ce qui sera présenté par le gouvernement comme une rébellion, version démentie par tous les rapports des témoins italiens, allemands ou américains, consuls, missionnaires, enseignants, qui expliquèrent que les Arméniens avaient organisé la défense de la ville afin d'éviter de subir un massacre. En février 1915, le comité central du parti jeune turc au pouvoir et des ministres du cabinet de guerre, Talat Pacha et Ismail Enver en particulier, mirent secrètement au point un plan de destruction qui allait être exécuté durant les mois suivants. Il fut présenté comme un programme de déplacement de la population arménienne que le gouvernement accusait de collaborer avec l'ennemi russe, loin du front. En fait, la déportation ne fut qu'un écran de fumée cachant une opération d'anéantissement de tous les Arméniens de l'Empire. La destruction des populations arméniennes fut opérée en deux phases successives, d'avril 1915 à la mi-automne 1915, dans les 7 provinces orientales d'Anatolie, dont les 4 proches du front russe, Trébizonde, Erzurum, Van, Bitlis et les 3 autres plus en retrait, Sivas, Kharput, Diyarbakir, où vivaient près d'un million d'Arméniens. Puis de la fin de 1915 jusqu'à l'automne 1916, dans d'autres provinces de l'Empire. La première mesure prise dès février 1915 fut le désarmement des soldats et des gendarmes arméniens enrôlé dans l'armée ottomane. Il fut relégué dans des bataillons spécialement créés et affecté aux travaux et à la voirie avant d'être éliminé par petits groupes au cours de l'année 1915 par les gendarmes chargés de leur encadrement ou par des Kurdes appelés en renfort. Le 24 avril 1915, le ministre de l'Intérieur Talat Pacha, l'un des principaux responsables du mouvement Jeune Turc, ordonna l'arrestation des intellectuels arméniens. L'opération débuta à Constantinople dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, lorsque 235 à 270 intellectuels arméniens furent raflés, en particulier des ecclésiastiques, des médecins, des éditeurs, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes et des hommes politiques, dont des députés au Parlement ottoman. Une seconde vague d'arrestations fut lancée dès le lendemain, durant laquelle entre 500 et 600 Arméniens furent arrêtés. Au total, on estime que 2345 notables arméniens furent arrêtés en quelques jours avant d'être déportés, puis massacrés dans leur majorité durant les mois qui suivirent. C'est en référence à cette rafle que la date du 24 avril a été choisie pour commémorer le génocide des Arméniens. Quelques semaines plus tard, le 15 juin 1915, 20 leaders du Parti social-démocrate Hentchak furent pendus à Constantinople. Dans les provinces orientales, l'opération se déroula de manière similaire. Les notables arméniens furent systématiquement arrêtés au motif d'un prétendu complot contre le gouvernement et leurs maisons perquisitionnées à la recherche d'armes et d'indices. Ils furent ensuite torturés afin de leur soutirer des aveux avant d'être déportés puis massacrés dans les environs. Un avis de déportation fut publié en vertu duquel toute la population arménienne devait être évacués vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie en convois de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Ces convois quittèrent les villes à intervalles réguliers, à pied, avec peu ou pas de bagages, accompagnés de gendarmes à cheval. Au total, 306 convois de déportés ont été dénombrés entre avril et décembre 1915, avec un total de plus d'un million de personnes. Les hommes valides encore en vie furent systématiquement massacrés dès le départ des convois, tandis que les plus belles femmes et les enfants étaient enlevés pour être revendus comme esclaves. Les convois furent décimés à chaque étape, tant par les gendarmes chargés de les escorter que par des tribus kurdes et d'autres miliciens recrutés à cette fin. Seuls quelques milliers de personnes survécurent à cette déportation. Dans les vilayettes de Bitlis et de Diyarbakir, presque tous les Arméniens furent assassinés sur place. La seconde phase du génocide eut lieu de l'automne 1915 à l'automne 1916. Le 15 septembre 1915, le ministre de l'Intérieur Talat Pacha envoya un télégramme à la direction du parti Jeune Turc à Alep, dans l'actuelle Syrie. Je cite ce télégramme. « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. » Aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut pas tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. » Fin de citation. Puis, dans un second télégramme, il indiquait, il a été précédemment, je cite à nouveau, « Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. » Fin de citation. Des prisonniers de droit commun furent libérés afin d'assister les forces armées ottomanes dans la perpétration des massacres. Dans le reste de l'Empire, le programme prit la forme d'une déportation conduite par chemin de fer sur une partie du parcours. Les convois de déportés, environ 870 000 personnes, convergèrent vers Alep, où une direction générale de l'installation des déportés les répartit selon deux axes. Au sud, vers la Syrie, le Liban et la Palestine, une partie des déportés survivra. À l'est, le long de l'Euphrate, où des camps de concentration, véritables mouroirs, furent improvisés. Les déportés furent peu à peu poussés vers des résorts. De là, en janvier 1916, ils furent envoyés dans les déserts de Mésopotamie, où ils furent massacrés par petits groupes ou moururent de soif. Les derniers regroupements de déportés le long du chemin de fer de Bagdad, à Ras Oul Ain, à Intili, furent eux aussi exterminés en juillet 1916. À la fin de la seconde phase du génocide, seuls survivaient un tiers des Arméniens, ceux qui habitaient Constantinople et à Smyrne. Les personnes qui avaient été enlevées et les Arméniens du vilayet de Van, sauvés par l'avancée de l'armée russe. Au total, il n'y avait plus que 290 000 survivants. Le gouvernement ottoman s'employa à systématiquement éliminer toute preuve du génocide. Les photographies des convois de déportés furent interdites. La censure officielle interdit aux médias de faire mention des massacres. Tout fonctionnaire s'opposant à l'exécution du génocide fut muté, démis de ses fonctions ou fusillé. De nombreux témoins étrangers, diplomates, missionnaires, présents sur les lieux des massacres, rédigèrent des rapports pour leur gouvernement, décrivant avec moult détails le processus génocidaire en cours. Ces notes sont conservées dans les archives des pays destinataires. Le Vatican reçut les premiers rapports sur les massacres en juin 1915. Le pape Benoît XV intervint personnellement à deux reprises auprès du sultan Mehmet V par courrier, ce qui ne fit qu'empirer la situation des Arméniens. Durant la même période, d'autres minorités de l'Empire ottoman furent également victimes de massacres. Les populations araméennes et grecques pontiques furent en grande partie éliminées par les autorités ottomanes, ainsi que les Syriaques et les Yézidis. De 500 000 à 750 000 Assyriens, représentant environ 70% de la population de l'époque, furent massacrés selon le même modus operandi durant la même période que le génocide des Arméniens. Environ 350 000 Grecs pontiques furent victimes de massacres, de meurtres et de pendaisons, ainsi que de la famine et des maladies. Ismail Enver, le ministre de la guerre, aurait déclaré qu'il voulait, je cite, « résoudre le problème grec de la même façon qu'il pensait avoir résolu le problème arménien ». Fin de citation. Une estimation du nombre de victimes est donnée par le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, dans son carnet personnel révélé en 2005 et surnommé le carnet noir. Il y fait l'estimation d'un nombre de 1 617 200 Arméniens en 1914 contre seulement 370 000 après les massacres, soit environ 1 247 200 disparus, c'est-à-dire 77% de la population arménienne. Une partie des Arméniens survivants restèrent sur place, cachés en Turquie après les massacres et tout au long du XXe siècle, sauvés par des justes turcs ou enlevés, adoptés et islamisés de force. À ces énormes pertes humaines s'ajoutent les dommages matériels et financiers, eux aussi très lourds. En plus de la saisie du patrimoine immobilier des Arméniens, les comptes bancaires et les polices d'assurance furent aussi saisis. En 1916, le gouvernement ottoman déposa 5 millions de livres or à la Reichsbank. Ce trésor provenait en grande partie des comptes bancaires arméniens spoliés. Les dommages immobiliers sont estimés à 2500 églises, 451 monastères et 1996 écoles détruits ou spoliés. Cette prédation des biens arméniens permit d'accentuer l'enrichissement de la nouvelle bourgeoisie turque. Durant les années qui suivirent ces tragiques événements, des archivistes de la Fédération révolutionnaire arménienne tentèrent, de se venger en assassinant certains responsables du génocide. Ce fut l'opération Némésis, du nom de la déesse grecque de la vengeance. Au total, 8 hauts responsables turcs ou azéris tombèrent sous les balles de 7 hommes présentés comme des justiciers. On parlera en particulier de l'assassinat de l'ancien grand vizir et ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, le 15 mars 1921, à Berlin. En 1943, la Turquie obtint de l'Allemagne nazie le transfert des restes de Talat Pacha de Berlin à Istanbul, où ils furent inhumés dans un mausolée à Sisley. Ses mémoires de guerre furent même publiées. Un mausolée lui est dédié à Istanbul, ainsi qu'un important quartier. Un des principaux boulevards d'Ankara, un grand boulevard d'Izmir et une avenue d'Edirne, ex-Andrinople, portent son nom. C'est par cette dernière avenue que l'on entre en Turquie lorsque l'on vient par la route de Bulgarie et de l'Union européenne. En début d'émission, j'ai évoqué le régime nazi et la Shoah. Depuis 1949, année de la fondation de la République fédérale d'Allemagne, les dirigeants de ce pays ont reconnu l'horreur des atrocités commises et ont fait amende honorable. Le chancelier Willy Brandt, ancien opposant à Hitler, est allé jusqu'à s'agenouiller au mémorial du ghetto de Varsovie. Des générations d'Allemands ont porté le poids moral des horreurs commises durant les douze années qu'a duré le régime nazi. Les Allemands, dans leur grande majorité, ont honte de cette période et ils continuent à exprimer des regrets. Rien de tel ne s'est produit en Turquie. Tous les gouvernements turcs, depuis ceux de Mustafa Kemal Atatürk, ont nié le génocide des Arméniens et l'actuel président Recep Tayyip Erdogan est allé très loin dans le déni et dans sa volonté d'honorer la mémoire des auteurs de ce génocide. La Turquie a préféré s'enfermer dans le déni, allant jusqu'à interdire toute évocation du génocide et à faire pression sur les autres nations du monde afin qu'elles en fassent autant. Pire, en France, des milices de voyous d'origine turque s'en prennent violemment aux descendants des victimes du génocide et des élèves, eux aussi d'origine turque, s'indignent que les professeurs français évoquent le génocide arménien qui fait pourtant partie des programmes d'histoire. « To add insult to injury », comme on dit en anglais, pour ajouter l'insulte à la blessure. Erdogan a apporté un soutien sans faille au dictateur de l'Azerbaïdjan dans ses guerres de reconquête du Haut-Karabakh et dans ses actes d'agression contre l'Arménie. Toute la population autochtone arménienne du Haut-Karabakh a été chassée de ses terres ancestrales et contrainte de se réfugier en Arménie. La République d'Arménie, pays de 3 millions d'habitants seulement, sans accès à la mer, est coincée entre son riche voisin azerbaïdjanais et son puissant voisin turc. Les Azéris, ne l'oublions pas, appartiennent à la grande famille turque. Au moment où nous commémorons le génocide de 1915, nous devons donc aussi penser aux Arméniens d'Arménie et d'Artsar qui vivent dans la hantise d'un nouveau génocide. Plus que jamais, en Corse comme ailleurs, nous devons être solidaires du peuple arménien et condamner le crime moral constitué par les achats de pétrole et de gaz azerbaïdjanais et par toute forme de tractation occulte avec le régime corrompu et dictatorial de Bakou. Pour terminer cette émission, je ne saurais trop que vous recommander la lecture de ce magnifique roman de Yann Manouk, un auteur français d'origine arménienne, « L'oiseau bleu d'Erzeroum », qui se poursuit avec un autre volume intitulé « Le chant d'Aganouche ». Je vous remercie, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine.
Un peuple dans son sang, l'Europe découvrait le jazz et sa musique.